Vous écoutez
RMC.
Il est 7h. Très bon réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Terminer le gaz et le pétrole, le gouvernement veut stopper sa dépendance et accélérer vers l'électrique, notamment dans certains secteurs encore à la traîne. Il n'en faisait pas avant, il n'en fera plus, dit Emmanuel Macron, il l'assure. Il quittera la politique après la présidentielle l'année prochaine. Et puis certaines villes sont plus accueillantes que d'autres pour les animaux. On vous dira quelle ville est en tête du classement de la fondation 30 millions d'amis.
Le plan d'électrification de l'économie est donc désormais sur les rails.
Le gouvernement l'avait annoncé, il en a détaillé hier les 22 mesures. Il ne veut plus importer les crises du monde dans le portefeuille des Français. Le budget va donc doubler d'ici à 2030. Cela va concerner les transports avec la relance du leasing social pour inciter à se tourner vers les voitures électriques. La fin également du chauffage au gaz dans les logements neufs. Des aides aussi pour la pêche et l'agriculture où le passage à l'électrique prend encore du temps, Martin Lange.
Régis est éleveur laitier et depuis 5 ans, il a fait passer plusieurs de ses outils à l'électrique.
C'est un aspirateur qui aspire le lisier et qui va l'emmener à la fosse. C'est surtout un gain de temps et un gain d'entretien puisque sur l'électrique, on a plus de panne.
Le problème, ce sont les gros tracteurs pour labourer ses champs.
L'électrification des tracteurs n'est qu'à son balbutiement. Aujourd'hui, toutes les marques ont des projets dans les cartons, mais on ne peut pas acheter à l'heure actuelle de tracteurs électriques. La crainte qu'on a, c'est qu'on va être sur des investissements assez importants. On parle de 30-40% de plus qu'un tracteur classique.
Autre sujet d'inquiétude, l'autonomie de ces machines. Vincent Ferry est membre du bureau des jeunes agriculteurs en charge de l'innovation.
On n'est pas du tout aujourd'hui en capacité de faire une journée de travail de 8, 10, 12 heures sur des batteries.
Concernant la pêche, certains chalutiers restent en mer 15 jours. La solution pour Eric Guinex est l'hybride. Il a d'ailleurs choisi d'équiper l'un de ses bateaux.
Enfin, les économies de 20%, mais 20% pour nous, ça fait 100 000 euros par an. La solution, elle est là.
Mais son projet est lancé depuis 4 ans et aura coûté plus de 2,5 millions d'euros.
Pour être éligible à ces fonds-là, c'est un boulot monstrueux. Décarboner un bateau, un pêcheur seul peut pas faire. C'est pas possible.
L'objectif du gouvernement, c'est 500 bateaux électriques d'ici 2030. Il va nous falloir un sacré coup de pouce, conclut l'armateur.
Des annonces aussi pour relancer le logement. Le gouvernement va présenter un projet de loi pour permettre notamment de remettre les passoires thermiques à la location, les logements classés F ou G, à condition que les propriétaires s'engagent à les rénover sous 3 ou 5 ans. Donald Trump promet qu'il n'utilisera pas l'arme nucléaire contre l'Iran. Le président américain, pas pressé, dit-il, il n'a toujours pas fixé de date limite au cessez-le-feu et dit avoir tout son temps dans cette guerre. Hier, pour la première fois depuis 2 semaines et le début de la trêve, des explosions ont retenti à Téhéran. Selon des médias iraniens, Israël dément avoir attaqué le pays. Donald Trump a par contre annoncé que la trêve entre l'État hébreu et le Liban était prolongée de 3 semaines.
Nous avons eu une excellente réunion avec de très hauts responsables libanais et israéliens et nous pensons que le président libanais et le premier ministre israélien viendront ici dans les 2 prochaines semaines. Ils ont convenu d'un cessez-le-feu de 3 semaines supplémentaires. Je pense que c'est le début de quelque chose de très important. Ce serait formidable de parvenir à un accord sur ce point en même temps que ce que nous faisons en Iran.
Une autre vie attend Emmanuel Macron l'année prochaine. Il dit en tout cas qu'il raccrochera après la présidentielle. Plus de politique, dit le chef de l'État. Il l'a dit pendant son déplacement hier dans une école de Nicosie à Chypre. Thomas Becker, service politique d'RMC. 2 quinquennats, pas un de plus.
Oui, Emmanuel Macron envisage l'après en public pour la première fois dans une discussion légère à l'école franco-chypriote de Nicosie. C'est lui qui spontanément évoque le sujet.
C'est une affaire de passion. J'ai pas fait de politique avant. Et j'en ferai pas après, tu vois.
Empêché de se représenter par la Constitution, l'actuel président n'aura que 49 ans l'année prochaine. Alors même s'il semble fermer la porte, une de ses proches prévient « Bon courage à ceux qui l'imaginent disparaître de la politique ». Elle le voit continuer à avoir un rôle sur les questions internationales. Au quotidien, Emmanuel Macron reste discret, voire mystérieux sur son avenir, même avec son entourage. Un de ses plus proches conseillers assure que le président n'évoque jamais le sujet, même en privé. Une députée macroniste de la première heure parie qu'il sera le premier à montrer qu'un président peut avoir une vraie vie après l'Élysée. Un de ses soutiens historiques le voit monter une entreprise, un business, mais il confesse, au soir du second tour de la présidentielle l'année prochaine, j'ouvrirai un dossier sur mon ordinateur intitulé « Macron 2032 ».
À Marseille, un homme a été abattu par des policiers municipaux hier dans le 11e arrondissement. L'homme de 25 ans avait brandi un couteau lors d'un contrôle routier. Enquête en cours pour déterminer les motivations du conducteur. C'est une augmentation colossale, plus 64% la hausse des violences dans le sport en 2025 selon une étude publiée par le ministère des Sports. Corentin Roland, ce sont en grande majorité des violences sexistes et sexuelles.
872 signalements pour violence dans un club de sport ont été enregistrés en 2025. 60% des témoignages font état de violences sexistes et sexuelles, mais toutes les violences physiques et psychologiques sont concernées par ce rapport. 9 fois sur 10, le mis en cause est un homme, le plus souvent un éducateur. La majorité des victimes sont mineures au moment des faits. Cette hausse annuelle de 64% des témoignages, la ministre des Sports Marina Ferrari l'explique par une libération de la parole.
Aujourd'hui, grâce à l'affichage, grâce aux campagnes de communication que nous avons faites, grâce à l'efficacité aussi de la plateforme, grâce aussi à toutes celles qui ont ouvert la voie et qui ont osé parler, eh bien les victimes aujourd'hui n'ont plus peur de parler.
Suite aux témoignages recueillis en 2025, 58 interdictions définitives d'exercer ont été prononcées. Depuis novembre, un affichage de signal sport est obligatoire dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Précision de Corentin Roland. En football, retour de la Ligue 1 ce soir, 31e journée. Brest reçoit Lens à 20h45. Rencontre à vivre sur RMC. Et puis si vous avez des animaux de compagnie, c'est à Grenoble, en Isère, que vous devriez vous installer, selon la fondation 30 millions d'amis, qui dresse son palmarès annuel sur le podium des grandes villes les plus accueillantes. On retrouve ensuite Boulogne-Billancourt en région parisienne et Lille dans le nord, des villes accessibles, propres. Là-dessus, Grenoble n'a aucune concurrence selon la fondation. Et Vincent Chevalier est allé le vérifier pour RMC.
Comme ça au pied, c'est bien.
Tous les jours, Mia promène son chien dans le parc Paul Mistral, l'un des plus grands, où il fait bon vivre pour les animaux.
Super, surtout dans ce parc. Depuis qu'ils ont mis la zone chien, justement, et ben, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent.
L'année dernière, la ville a redéfini les endroits où les chiens peuvent être tenus sans laisse. Des nouveaux panneaux ont été installés. Mais pour Marie, ce n'est pas encore assez. Il faut des zones mieux sécurisées.
On a une rue là avec des voitures, on a une rue là-bas avec des voitures. Tout le monde n'a pas une voiture pour aller dans un endroit en dehors de la ville pour le faire courir.
Allez, tu vas chercher. Oui.
Dans ce petit jardin près de la gare, l'espace est partagé avec des jeux pour enfants. Pas l'idéal, mais la cohabitation se passe bien, d'après Nora.
Ça se passe super bien, vraiment. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème.
Une liberté presque trop importante pour Tatiana, pas rassurée par le nombre de chiens laissés sans surveillance.
Quand ils courent, on ne sait pas s'il est méchant ou pas. Parfois, ça me dérange. Surtout quand il n'y a pas d'endroit spécial pour qu'ils fassent leurs besoins. Souvent, ils ne nettoient pas après leurs chiens.
À Grenoble, les chiens sont même acceptés gratuitement dans les transports. Sport en commun, quelle que soit leur taille.
Reportage à Grenoble de Vincent Chevalier.
Et vous nous appelez d'ailleurs au 3216. Parlez-nous justement de, notamment de votre chien, puisque c'est évidemment eux aussi qu'on promène dans les villes. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que ça se passe bien? Quels sont les trucs aussi que vous pouvez partager? On vous attend au 3216, il est 7h08.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe. Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Les règles du jeu qui vont encore changer et c'est difficile à lire, vous allez le voir.
D'abord la France qui veut donc prendre le virage de l'électrique. Le gouvernement a dévoilé hier son plan d'électrification. Ça va concerner l'agriculture, l'industrie, mais aussi le BTP. Bonjour Jean-Christophe Repond.
Bonjour.
Vous avez été réélu hier à la tête de la CAPEB. Félicitations.
Merci.
La CAPEB qui regroupe les entreprises du bâtiment. Alors pour sortir de notre dépendance, le gouvernement veut abandonner les chaudières au gaz, à la fois dans le neuf et dans la rénovation. C'est encore un changement de règles du jeu, une mesure que vous avez découvert hier, quasiment dans la presse. Vous n'aviez même pas été consulté. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il nous faut davantage de visibilité. Pourquoi cette annonce va vous compliquer la tâche?
Elle complique la tâche surtout aux particuliers sur l'acceptation du changement de vie et de chaudière gaz. On est en incapacité de lire la politique générale. Nous, on a redit au gouvernement qu'il fallait parler de sobriété, d'isolation et d'énergie non consommée. Et on partage le constat de retrouver une indépendance énergétique en sortant du carboné. Mais il existe des situations où le gaz actuellement n'est pas convertible en pompe à chaleur.
C'est-à-dire, donc, vous parlez de quel type de situation dans le bâtiment?
D'appartements haussmanniens, des appartements de ville qui sont déjà sur du gaz et qu'il est difficile de déconstruire pour pouvoir y poser une pompe à chaleur en site urbain. Donc il nous apparaît inaudible pour le particulier de se projeter dans la rénovation énergétique, dans un programme à long terme. Et donc on partage le constat, on partage pas les annonces et on voit bien que la contrainte n'amène pas l'activité. Nous, ça fait 2 ans qu'on est en recul d'activité et notamment sur la rénovation énergétique, -1,5 encore au premier trimestre 2026, et il est inaudible pour le particulier. Nous, ce qu'on recherche avec le gouvernement, avec le ministre du Logement, mais aussi le Premier ministre, c'est une visibilité, une confiance dans le marché et redonner de la confiance au marché.
L'alternative aux chaudières à gaz, on est bien d'accord, désormais, c'est la pompe à chaleur.
Oui, mais il existe aussi de la capacité à faire de l'hybridation des chaudières.
Mais ça, que ça rentrera pas dans le cadre, on est d'accord.
Visiblement, non, ça rentrera pas dans le cadre, alors que c'est une alternative qui permet d'aller doucement.
Après, sur le fond. L'histoire va dans ce sens-là, quand même.
Bien évidemment, on partage le constat. On partage pas la trajectoire ni le récit qui est fait actuellement par le.
C'est-à-dire le côté net.
L'annonce de dire, le particulier entend quoi quand on dit stop du gaz dans le neuf, c'est qu'il était déjà la norme 2020. Donc ça veut dire que pour le particulier, il entend plus de gaz du tout. Et c'est juste un petit rappel quand même qu'il y a un différentiel entre une pompe à chaleur et une chaudière gaz qui est assez important. Donc on parle aussi du pouvoir d'achat.
À l'achat, même si ensuite, c'est quand même censé utiliser moins d'énergie.
Bien évidemment. Mais l'énergie qui n'est pas consommée, c'est celle qui coûte la moins chère. Donc il faut d'abord isoler, il faut d'abord ventiler.
C'est sûr que quand on la consomme pas, elle coûte pas cher. Jean-Christophe répond deux conséquences. La question de la prime rénov et puis, par contre, la question aussi de la location des passoires thermiques. Sur la location des passoires thermiques, désormais, il sera possible de louer des passoires thermiques si on s'engage à faire des travaux. Alors, ça paraît un peu contradictoire quand même de réouvrir la possibilité de les louer, ces passoires thermiques. Mais en même temps, pour vous, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il va y avoir des travaux.
Nous, on recherche tous les leviers d'activité. 2 ans de baisse d'activité, crise ukrainienne, crise de l'énergie, 30% d'augmentation des matériaux, 2 ans et demi de récession, des milliers d'entreprises qui sont parties au tapis, 30 000 emplois détruits. Donc là, on annonce 20% d'augmentation de l'énergie. Nous, on recherche des leviers d'activité. Donc bien évidemment que si on remet des passoires thermiques en amélioration énergétique, ça sera du travail pour l'activité du bâtiment et l'artisanat du bâtiment.
Ça d'ailleurs, ça fait réagir. On a de nombreux messages sur le WhatsApp.
Beaucoup de réactions ce matin. Eric nous écrit, par exemple, ça fait plus de 10 ans qu'on parle de ne plus louer les diagnostics G du DPE. Et malgré tout, il en reste 700 000 et en 3 ou 5 ans, ça va changer. C'est la question que pose Eric.
Et on entend l'ironie.
On entend un petit peu d'ironie. J'ai ce message de Bruno qui nous dit les logements à passoire thermique, il faut mettre une participation financière à la charge du propriétaire en attendant de faire les travaux pour aider les locataires, histoire que ce soit un contrat gagnant-gagnant.
Ma prime rénov, on en parle évidemment régulièrement sur RMC, le guichet avait été suspendu, il vient d'être remis en place. Ça va avoir un impact aussi, cette question des chaudières?
Bien évidemment, puisque si on exclut de l'accompagnement de la rénovation dite globale d'ampleur, la chaudière gaz, on ne peut plus avoir de
ça veut dire que à partir de maintenant, tous ceux qui ont une chaudière au gaz, s'ils ne changent pas la chaudière, ils n'auront pas accès à ma prime rénov.
S'ils veulent avoir ma prime rénov dans la rénovation dite d'ampleur globale, avec 2 sauts d'énergie, la chaudière gaz sera disqualifiée. Donc c'est pas facile à comprendre, on est d'accord. Mais le fait est, c'est que nous, on essaie de trouver des systèmes qui permettent d'accompagner au mieux le particulier et de lui faire un parcours de rénovation. Donc on travaille avec le gouvernement, on travaille avec l'ADEME pour écrire un parcours de rénovation.
Et là-dedans, on est en train de vous changer les règles.
Et d'un coup, on apprend que finalement, malgré le fait qu'on écrive le parcours de rénovation, on va disqualifier des éléments qui permettent de décarboner. C'est ça qui est important à dire au gouvernement. Bien évidemment qu'il vaut mieux sortir des énergies fossiles, mais il faut décarboner avant tout.
Jean-Christophe répond, la crise actuelle au Moyen-Orient, plus de 50 jours de guerre et l'augmentation évidemment des prix là-bas, ça commence à avoir un vrai impact sur l'explosion des prix de certains matériaux. Comment vous le vivez ?
On a déjà des fournisseurs qui nous imposent des augmentations de 20%, des prix qui sont valables à l'achat de matériaux 24 heures, 48 heures. Donc on a fait un communiqué de crise avec les différents ministères pour trouver des solutions, ça c'est un sujet. Mais nous, ce qui nous importe, c'est de trouver ces leviers d'activité. Donc on a fait une proposition à Bercy, qui visiblement n'a pas le vent en poupe et n'est pas très favorable, sur une baisse de TVA pour donner du pouvoir d'achat aux particuliers pour pouvoir engager des travaux. Donc passer la TVA de rénovation de 10 à 5%, visiblement c'est une vision très défavorable de Bercy, je le comprends, hein, je l'entends, mais j'attends de Bercy des contre-propositions. Nous, on peut pas dire que le gouvernement a fait d'énormes efforts pour sauver le neuf, pour sauver la promotion immobilière, pour sauver les grandes entreprises, et dire finalement la rénovation et l'artisanat, c'est pas bien grave, ils se débrouilleront toujours. Donc nous, on a fait une proposition de baisse de TVA sur un plan de redressement. On a dit de sauvegarde de l'emploi, parce que on a détruit 30 000 emplois.
Qu'on en est là.
Et ça coûte un peu de l'argent aussi, me semble-t-il, aux finances publiques. On a le plus grand respect des finances publiques, donc on veut pas de l'accompagnement et de la dépense supplémentaire. Et on dit, baissons un peu le TVA TVA, ça fait 2,4 milliards de travaux et ça fait 10 000 emplois de créés. On nous dit non, circuler, il n'y a rien à voir parce que c'est inopportun et mal pensé. J'ai dit, banco, donnez-nous une proposition qui permet de relancer l'activité. J'attends une proposition.
Vous attendez toujours cette proposition. Toujours. Merci Jean-Christophe Repond, président, donc nouvellement réélu à la tête de la CAPEB qui regroupe les entreprises du bâtiment. Et puis tiens, justement, si vous travaillez dans des PME, dans l'artisanat, dans le commerce, eh bien c'est le moment de vous le dire. On relance la nouvelle édition des trophées PME RMC BFM, le premier concours des PME de France. Et c'est une grande fierté de le parrainer. Vous voulez mettre votre entreprise en avant. Les inscriptions sont ouvertes. Il y a 100 000 euros d'espace publicitaire à gagner sur RMC et sur les chaînes BFM locales. Et donc c'est le moment d'inscrire et de valoriser votre entreprise. Pour candidater, vous vous inscrivez sur le site trophée-pme-rmc-bfm.fr, trophée-pme-rmc-bfm.fr. Coup d'envoi donc, ça y est, c'est lancé. Il est 7h19. L'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, si je vous dis passe-partout, combien de clés vous me répondez? Fort Boyard évidemment.
Aïe aïe aïe. L'émission télé va changer d'animateur et figurez-vous qu'à une époque, vous pouviez louer le Fort Boyard pour environ 150 euros par an.
Mais non.
Et oui.
Oh, bah c'est dommage, on aurait dû le faire.
Ah oui.
Allez, il est 7h20, on se retrouve dans un instant et puis notez qu'il y a Arnaud Demange aussi qui arrive pour pirater le face-à-face. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est parti pour remonter le temps. À 7h21, comme chaque matin, c'est l'heure d'Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Oh là 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 là, quel kiff. Vous l'avez reconnu, évidemment. La célèbre émission Fort Boyard, elle va changer de visage. On l'a appris hier, c'est l'animateur Cyril Ferraud qui va présenter le jeu et succéder donc à Olivier Mine. Ce n'est pas la seule actualité du fort le plus célèbre de France.
Et oui, puisqu'il vient de faire son entrée au loto du patrimoine. Si vous participez à ce loto, vous aiderez donc en partie le fameux fort, puisque le Fort Boyard a absolument besoin d'argent. Un vaste chantier de restauration du bâtiment est prévu par le département de la Charente-Maritime pour un coût total estimé à 44 millions d'euros. Des travaux nécessaires à Pauline, puisque ce fort n'est plus tout jeune.
Mais alors justement, il date de quand ce fort?
Alors c'est une très vieille idée. Depuis le XVIIe siècle, l'État veut absolument construire un fort sur l'estuaire de la Charente pour protéger cette côte française des navires ennemis. Problème, comment construire un fort en pleine mer? Et oui, c'est pas si simple. Donc, on envisage de l'ériger sur un banc de sable. Son nom vient de là, Boyard, puisque Boyard, c'est la version francisée d'un mot hollandais, ban yard, qui veut dire banc de sable. Alors pourquoi hollandais? Eh bien parce que les Hollandais ont été les tout premiers à cartographier le banc de sable où le Fort Boyard sera effectivement construit. Bref, l'idée était là, mais ça va prendre beaucoup de temps, plus d'un siècle, pour qu'elle devienne techniquement possible.
Comment va se passer sa construction alors?
Eh ben très mal, très mal. Les travaux commencent sous Napoléon en 1803, sauf que tout était évidemment très compliqué. Il fallait acheminer toutes les pierres par bateau, construire des fondations sous-marines, tout ça au 19e siècle. Bâtir un tel édifice sur un banc de sable, c'était une première et un défi. Résultat, le chantier va durer 63 ans quand même.
63 ans. Après tout ce temps, est-ce que le fort avait encore une utilité?
Plus vraiment, c'est non. Bien le problème, forcément, ça a pris un peu trop de temps. La situation militaire avait changé, du coup ce fort de 68 mètres de long n'avait plus aucune fonction stratégique, donc en 1871, on le transforme en prison, et puis après, on va le laisser à l'abandon, on va même le surnommer le fort inutile, et l'État va ensuite le louer, alors Apolline, sachez-le, en 1931, si vous vouliez louer le Fort Boyard pour un an, ça vous coûtait 900 francs par an, ce qui aujourd'hui représenterait 150 euros.
C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas vécu à cette époque-là. À partir de quand est-ce que ça devient le cadre d'une émission de télévision?
Alors, la première émission Fort Boyard est diffusée le 7 juillet 1990. Le succès sera immédiat et pas seulement en France, puisque l'émission est adaptée dans 34 pays, c'est énorme. Mais les tournages ont toujours lieu dans notre fort. Et attention, parce qu'il y a des variantes selon les nationalités.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça concerne? Variante, j'ai peur.
Alors, ça concerne surtout le père Fouras. Le père Fouras qui change de nom selon les pays. Alors, par exemple, dans la version belge, il s'appelle le vicomte Godefroy de Tribourio. Dans la version algérienne, il s'appelle le cheikh El Kouchkache. Et mon préféré, dans la version coréenne, car oui, il y a bien eu une version coréenne de Fort Boyard, le père Fouras s'appelle Napoléon Kim.
Mais non! C'est extraordinaire! Vous avez réussi à mettre un petit Napoléon, c'est magnifique. Incroyable. Alors, je vous recommande un film magnifique que j'ai vu 10 fois, qui est très très beau, qui est un film qui s'appelle Les Aventuriers, qui date de 1967, avec Lino Ventura et Alain Delon. Et les scènes finales se passent dans un Fort Boyard complètement abandonné, que l'on découvre donc à cette époque-là.
C'est
un film magnifique, vraiment très très beau, intemporel, je vous le recommande. Donc Les Aventuriers, 1967. Bah oui, moi aussi j'ai mes petites choses. Mes petits trucs, Arthur. Il est 7h24, c'est l'heure d'Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Arnaud Demange qui fera pas mieux que Napoléon Kim, alors il va repartir. Je crois qu'on peut annuler la rubrique Napoléon Kim.
Alors Arnaud, l'invité du face-à-face tout à l'heure, ce sera le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Bruno Tertrais.
Oui, car en ce moment, la guerre fait rage au Moyen-Orient et c'est un spécialiste de la guerre. Il y a la guerre.
Eh oui. Ah là là,
quelle histoire. Il y a la guerre là-bas. Alors spécialiste de ces spécialistes, on va même faire un jeu sur la guerre. Ce livre a-t-il été écrit par Bruno Tertrais? Attention, Iran, la prochaine guerre.
Oui, enfin, ça pourrait. Oui. Ouais.
La guerre.
Oui,
au puf. La guerre sans fin.
Ça non. Pourrait.
Oui. Oui. La guerre pour les nuls.
Oui. Bah oui.
Non. La guerre des mondes, retour de la géopolitique et choc des empires.
Oui.
Les 7 guerres de cristal.
Non.
Martine à la guerre.
Non.
Les guerres du climat.
Ah, ça pourrait.
Oui. Le guide du routard en zone de guerre.
Non.
50 nuances de guerre. Non plus. Vous voyez, il est balèze en guerre.
Mais vous pourriez l'inspirer, ouais.
Et alors, ça tombe bien. C'est la guerre! Alors, à propos, Pete Hegseth, le ministre de la guerre américain, a déclaré qu'il mettait fin au vaccin obligatoire contre la grippe pour les militaires. Parce que les militaires, américains, des fois, ils ont peur des piqûres. Parce que ça pique. Les gars, ils rentrent dans des tuyaux en Afghanistan, ils sont prêts à affronter des drones iraniens. Mais les vaccins contre la grippe, ça pique et on sait pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'ils savent ce qu'il y a dans un Big Mac. Ou alors c'est une nouvelle arme. Ils vont courir derrière les soldats iraniens pour leur filer la grippe. Tchoum! Oh, je suis touché! Oh. En plus, le nouveau guide suprême, Mojtaba, là, comme il a plus de bras, il peut pas se moucher. Donc vraiment, c'est efficace. C'est comme ça qu'ils vont le tuer. Donald Trump a déclaré avoir tout son temps.
Ben oui, moi aussi, j'ai l'image.
C'est là comment il va faire.
Ok.
Donald Trump a déclaré avoir tout son temps vis-à-vis de l'Iran. La semaine dernière, il menaçait de détruire tout le pays. Ouvrez le détroit ou je détruis tout. Non. Ok, puisque c'est comme ça, vous avez un cessez-le-feu illimité. J'ai tout mon temps, je m'en fous. Alors en attendant, ça bloque, c'est la merde partout. Mais bon, lui, il est pas pressé. Avec la fermeture du détroit, tiens, on redoute aussi des pénuries de plastique. Ça fait moins de pétrole qui circule, moins de plastique, moins de cargo qui pollue. En fait, Trump, c'est devenu le plus grand écologiste du monde. Hein.
Tout à fait.
Lui qui a horreur des zadistes à dreadlocks, il est en train de faire plus pour la nature en 3 semaines que Sandrine Rousseau pendant toute sa carrière. Il copie sur elle. Je vais déconstruire les hommes iraniens.
Déconstruit.
Il va aller faire une cabane en forêt avec Vianney. But where you are, not here. Where you are, not here. Passe-moi les chevilles de 14 pour fixer le toit de la toiture. Ils vont s'adorer. Non mais, je pense que c'est possible. En plus, Trump, il s'en fout du plastique. Mélania, de toute façon, il a plus le droit de s'en servir. Allez, rendez-vous avec Monsieur Guerre à 8h30. À 8h30, c'est la guerre.
C'est la guerre. Il est 7h27. À tout de suite pour la météo du journal. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Faire débuter les journées à 9h pour les collégiens et lycéens, l'idée fait son chemin. Le ministre de l'Éducation nationale s'y dit favorable avec un objectif, respecter davantage le rythme des adolescents et améliorer leur sommeil. La France veut accélérer l'électrification, un plan massif de 10 milliards d'euros par an d'ici à 2030. Objectif, sortir au plus vite de sa dépendance au gaz et au pétrole. Douleur et recueillement à Juniville, dans les Ardennes, village où a grandi le caporal chef anicé Girardin, mort après une embuscade il y a 6 jours au Liban.
Et si les cours au collège et au lycée commençaient à 9h?
Une piste soutenue par le ministre de l'Éducation nationale pour mieux respecter le rythme et le sommeil des élèves. Mais pas pour la rentrée prochaine, une proposition également poussée par différentes associations. Alors concrètement, qu'est-ce que ça changerait? Sarah Bélien a posé la question aux principaux concernés.
Élève en classe de 3e, Ilyes n'est pas très matinal.
Quand je commence à 8h, le premier cours, souvent soit je m'endors, soit j'écoute pas trop. Alors qu'à 9h, je suis à l'affût.
Pour lui, commencer plus tard n'aurait que des avantages.
Prendre mon petit déj, bien me réveiller, avoir plus de temps de sommeil.
Et plusieurs envisagent déjà de réorganiser l'emploi du temps de leur soirée.
Pour le soir, il faut dormir plus tôt, préparer les devoirs. Il y a beaucoup de charge mentale.
Mais je peux passer beaucoup plus de temps avec ma famille.
Si cette proposition fait globalement l'unanimité, Isabella, élève de première, reste mitigée.
Je me dis, si les cours commencent à 9h, ça veut dire que du coup, les journées vont être encore plus longues.
Car là est tout l'enjeu. Un collège de Dijon teste cette mesure depuis la rentrée avec les élèves de 4e et de 3e. Sophie Pizzolo, directrice de l'établissement, constate une meilleure concentration des adolescents.
Sur le temps du matin, sur les 4e, 3e, on a moins d'incidents.
Mais pour elle, les rythmes scolaires doivent être repensés plus largement.
On sait qu'en France, on est quand même un pays où on a le plus de volume horaire à la journée. Donc c'est toujours la question de la quantité contre la qualité.
Question qui sera un sujet de la présidentielle de 2027 pour le ministre de l'Éducation nationale.
La France mise sur l'électrique, un plan massif de 10 milliards d'euros par an d'ici à 2030, dévoilé par le gouvernement dans un contexte de crise et de guerre au Moyen-Orient. Objectif, électrifié partout, des bâtiments au transport jusqu'aux usines et aux champs. Une vingtaine de mesures dévoilées par le gouvernement. Gouvernement Sébastien Krebs qui veut sortir au plus vite de la dépendance aux énergies fossiles.
Oui, accéléré parce qu'il y aura d'autres crises énergétiques à l'avenir, résume un conseiller, d'autant que la France produit déjà plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Alors sur la route, l'électrique doit devenir l'évidence, explique le gouvernement. Le leasing social sera relancé pour les plus modestes, des aides à l'achat ouvertes aux professionnels, 10 000 euros pour une camionnette électrique, jusqu'à 100 000 euros pour un camion, et les bornes de recharge seront multipliées par 5. Le gouvernement veut aussi électrifier les tracteurs, les bateaux de pêche, les engins de chantier, aider les boulangers à changer de four à pain et éliminer le chauffage au gaz des logements. Il sera désormais interdit dans le neuf et après une rénovation financée par MaPrimeRénov. En tout, 10 milliards d'euros d'aide par an d'ici à 2030. De quoi créer 600 000 emplois, espère le gouvernement, car ces dispositifs seront tous fléchés vers des équipements fabriqués en France ou en Europe.
Et le gouvernement desserre l'étau sur les passoires thermiques. Les logements classés F et G au DPE pourront être remis en location, mais à une condition, des travaux de rénovation énergétique engagés dans les 3 à 5 ans. Objectif, remettre des centaines de milliers de logements sur le marché sans renoncer à la transition écologique. Prolongation de 3 semaines du cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Un accord a été trouvé cette nuit. En revanche, de nouvelles explosions ont été entendues en Iran selon les médias iraniens, alors que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Leur origine reste inconnue. Israël dément avoir attaqué et Donald Trump assure avoir tout son temps pour lever le blocus du détroit d'Ormuz et assure qu'il n'est pas question d'utiliser l'arme nucléaire. Et l'émotion est toujours vive après la mort du caporal-chef Anissé Girardin. Ce soldat français a succombé à ses blessures mercredi après une embuscade au Liban il y a 6 jours. Il faisait partie du 132e régiment d'infanterie de Suippes dans la Marne et a grandi à Juniville, dans les Ardennes. Justement, Cassandre Brault, envoyée spéciale RMC, s'est rendue sur place où les habitants sont toujours sous le choc.
Depuis le décès de Anissé Girardin, Bruno Rochon, le maire de Juniville, a mis les drapeaux de la commune en berne.
Anissé, c'est un enfant du village, donc il a grandi au sein de Juniville.
Submergé par l'émotion, c'est encore difficile pour lui de trouver les mots pour raconter le petit garçon qu'il était, le fils du boulanger du village.
C'était un petit garçon toujours avec le sourire, qui rendait service avec sa maman. C'est lui, des fois, qui rendait la monnaie.
Si Anissé Girardin a grandi à Juniville, c'est à la Chep qu'il habitait avec sa compagne et son enfant de 2 ans. La petite famille vivait juste à côté de chez Thierry.
On a sympathisé tout de suite. Avec les deux chiens, en fait, on s'est rencontrés. Puis voilà. Lui, il était souvent absent, donc il était souvent en mission. Donc je pense qu'il aimait très bien son métier.
Et Thierry a aussi une pensée pour le fils du militaire qui va grandir sans son père.
Je l'ai vu faire du vélo il y a une semaine avec sa mère. Et il dit, bah, tiens, ça y est, il fait du vélo. On ne se rend pas compte, la vie passe. Et on se dit, mince, on aurait dû se rencontrer plus tôt. Quoi.
En attendant de pouvoir participer à un hommage, Thierry a planté un drapeau dans son jardin pour honorer la mémoire du militaire décédé.
Un hommage national lui sera rendu. La date n'a pas encore été fixée. RMC 7h36, une enquête ouverte après la mort d'un piéton à Sartrouville dans les Yvelines. Un homme de 81 ans a été mortellement percuté par une voiture de la BAC en pleine course-poursuite. La victime traversait sur un passage piéton en sortant de la mosquée. Et Maxime Cliaruza, une question est au cœur de l'enquête. La vitesse des policiers au moment du choc.
Oui, il est presque 23h ce mercredi quand Mohamed traverse un passage piéton en sortant de la mosquée. C'est à ce moment-là que des policiers engagés dans une course-poursuite le percutent avant de lui porter secours. Selon les témoins, le véhicule de la BAC circulait à vive allure sur cette route pourtant limitée à 50 km/h. En atteste l'état de la voiture, comme l'explique l'un des fils de la victime.
Le pare-choc était défoncé sur une partie du véhicule et le rétroviseur était aussi parti en éclat. À quelques mètres du passage piéton, gisait le corps de mon père qu'on découvrait ici, inanimé. Et nous, les cinq enfants, nous étions en train de voir ce spectacle macabre.
Deux enquêtes ont été ouvertes, dont l'une confiée à l'IGPN, la police des polices. Selon les premiers éléments de l'enquête, les tests d'alcoolémie du conducteur étaient négatifs et le gyro phare allumé. Les proches de la victime promettent de ne rien lâcher tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire.
La Fédération française de rugby convoquée aujourd'hui à Agen dans l'enquête sur la disparition de Mehdine Argissi en 2024. Son président, Florian Grill, doit être entendu avec la possibilité d'une mise en examen pour homicide involontaire. Mehdine Argissi a été emporté par l'océan lors d'un stage de l'équipe de France des moins de 18 ans en Afrique du Sud. La Ligue 1, elle fait son retour ce soir, 31e journée au programme. Lens, deuxième, se déplace sur la pelouse de Brest à 20h45. C'est bien sûr à suivre sur RMC.
Les courses, c'est le quintet aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes à 20h15.
Le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori, le 10, l'amour suprême, son outsider, et le 15, Léopold.
Il est 7h38, c'était le journal de Clément Gouitz.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Quelle est la meilleure ville où habiter avec des animaux ? On vous dévoile ce matin le palmarès des endroits les mieux notés. Bonjour Hélène Gâteau.
Bonjour Apolline.
Vous êtes vétérinaire, animatrice et vous avez écrit ce livre « Dormir seul, à deux ou avec son chien » aux éditions Albin Michel. En haut du classement, il y a Grenoble, la ville la plus accueillante pour les animaux domestiques. Quels sont les critères sur lesquels il faut juger l'endroit où on peut être le plus heureux avec son animal ?
Eh bien écoutez, les critères qui ont été utilisés dans ce classement qui a été publié par la Fondation 3 millions d'amis, c'est tout d'abord l'accueil des chiens, la cohabitation avec les chiens, c'est-à-dire les espaces verts, les caniparcs, donc vraiment les espaces canins dédiés, les transports aussi, l'accès dans les transports. Et puis ensuite, il y a aussi d'autres critères, la pédagogie, la propreté, la sensibilisation, et puis aussi la gestion des chats libres. Là, c'est vraiment un classement cette année qui prend en compte des critères assez larges, encore plus larges que les années précédentes.
Alors Grenoble arrive
en tête de podium.
Grenoble arrive en tête de podium, mais vous savez quoi, pendant que vous êtes là, je voudrais qu'on accueille aussi Jérémy, parce que Jérémy, ça vous a pas tellement surpris cette histoire ?
Non, bonjour.
Bonjour Jérémy.
Non, parce qu'à l'annonce de votre sujet, juste à la fin du 5-7, j'ai dit, en fait, Grenoble, on est pas mal dans le domaine. Et vous avez justement annoncé Grenoble en tête du classement et j'étais pas du tout surpris, en fait.
Parce que vous avez quoi ? Vous avez un chien et vous habitez dans la région de Grenoble ?
Alors, moi, je n'habite plus la région de Grenoble depuis 7-8 ans. Je suis natif de Grenoble. Quand j'étais petit, on avait un chien et en fait, quand on se promène à Grenoble... Alors après, Grenoble, il n'y a pas que Grenoble. Moi, j'inclus Grenoble et son agglomération.
Ouais.
Parce que nous, on a beaucoup de villes.
Qu'est-ce qui faisait que c'était particulièrement sympa d'avoir un chien là-bas et que c'était moins contraignant qu'ailleurs ?
Beaucoup d'espaces verts. Et c'est vrai qu'on peut penser Grenoble béton, mais en fait, pas tant que ça. Il y a quand même pas mal de parcs. On a beaucoup de pistes cyclables et c'est vraiment... inclus dans l'environnement, parce qu'on a quand même pas mal de montagnes autour de nous, on a des bois, on a de la forêt, on a l'Isère, la rivière, on a le Grésivaudan à côté, et en fait, on a quand même pas mal...
Non, je t'ai plus, éloge de Grenoble. Merci Jérémy. Hélène Gâteau, est-ce que le fait de vivre dans une ville comme Grenoble, Boulogne-Billancourt ou Lille, qui sont les trois villes du podium, ça fait que certains qui peut-être ailleurs rechigneraient ou hésiteraient, là, ils se lancent plus facilement ?
Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut penser l'acceptation du chien différemment de ce qu'on faisait avant. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus uniquement propriétaire d'un chien. On a vraiment une vie qui est autour de son animal. On fait des activités avec, c'est un membre de la famille à part entière. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie que son animal soit accepté, de plus être en difficulté, de plus avoir une difficulté pour trouver des espaces verts dans lesquels on peut promener son chien. Et aujourd'hui, les municipalités, vraiment, elles repensent la ville autour autrement pour prendre en compte ce lien avec l'animal qui explose en ce moment, cette pète parentalité qui explose.
La pète parentalité.
Ça devient indispensable de la prendre en compte, en tout cas.
Vous appelez ça la pète parentalité, vous?
Ouais, c'est ça. C'est en fait le fait de considérer son animal un peu comme comme
on fait moins d'enfants,
ou un membre
mais
de la famille à part entière.
Voilà, on fait moins d'enfants, mais par contre on accueille effectivement les chiens. Alors Paris arrive quand même à une honorable 8e place. Ça vous satisfait? Ça vous paraît pas mal?
Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que Paris fait des efforts. On l'a vu en plus au moment des municipales. On a vu que tous les candidats essayaient de proposer justement des solutions ou bien des mesures pour une meilleure cohabitation avec les propriétaires de chiens et puis les non-propriétaires de chiens. Donc, on voit que les choses sont en train de bouger. Maintenant, il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Moi, je pense en premier lieu au transport en commun. Il y en a encore peu qui acceptent les chiens, même tenus en laisse ou dans des sacs. Donc ça, c'est important aujourd'hui pour que les personnes âgées aussi puissent se déplacer facilement, que les bus acceptent la présence des chiens. Les espaces canins, les jardins publics qui n'acceptent pas les chiens tenus en laisse, ça, je pense qu'il y a un gros, gros, gros effort à faire. Et puis, à côté de ça, moi, je dis attention, parce que la ville aura beau faire tout ce qu'elle veut, mettre en place des équipements, etc., si derrière le comportement des propriétaires de chiens n'est pas exemplaire, il y aura toujours des conflits d'usage. Donc, c'est important pour moi de vraiment sensibiliser les propriétaires de chiens. On doit être irresponsable. Ramasser les déjections, tenir son chien en laisse.
On doit être responsable, on doit être irréprochable.
Irréprochable, voilà. Pour que les pouvoirs publics, en tout cas, fassent des choses pour nous.
Ça, c'est à chacun de faire son boulot, en effet. Merci beaucoup, Hélène Gâteau. Vous êtes vétérinaire, animatrice, et votre livre qui vient de sortir, Dormir seul, à deux ou avec son chien, c'est aux éditions Albin Michel. Merci aussi à Jérémy, tiens, pour son témoignage depuis Grenoble. Et puis, puisqu'on parle de Grenoble, je vous signale que dimanche soir, 20h30, nouvel épisode inédit d'Apolline chez vous. J'ai été à la rencontre d'Arout. Arout, il vit à Grenoble, il est parti de rien. Il est aujourd'hui à la tête de 8 restaurants dans le centre-ville de Grenoble. Cette rencontre avec une très, très belle vie et une famille particulièrement forte, émouvante. Je vous le recommande, c'est à 20h30 dimanche soir sur RMC Story. Il est 7h47, dans un instant c'est le débat du vendredi. Cécile Duflot et Charles Consigny ont pris place dans ce studio. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Le Parti Socialiste a dévoilé son programme pour la prochaine présidentielle. La taxe Zucman, l'augmentation du SMIC, limiter les écarts de salaire ou encore créer un impôt sur les très grandes successions. Programme à gauche toute. J'imagine que vous ne serez pas d'accord. Et on en débat dans un instant, 7h47.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, c'était hier soir, la cérémonie des flammes.
La cérémonie de remise de prix des cultures populaires et urbaines. Ça veut dire rap, hip-hop, R&B. Les cultures populaires et urbaines. Les flammes, 4e édition à la scène musicale. Et vous l'avez peut-être reconnu après ces 4 victoires de la musique, Théodora rafle 5 flammes. Rien n'arrête le phénomène de 22 ans seulement. Meilleur album, meilleur clip, meilleure pochette entre autres, artiste féminine de l'année. L'artiste masculin, vous l'entendez, c'est Gims. Gims qui reste une valeur sûre aussi malgré sa mise en examen récente. Et ce que vous entendez, c'est un nouveau titre, Emprise. C'est sorti cette nuit après la cérémonie. Hamza signe le morceau de l'année pour Kiki de Bondy. On a vu les retours sur scène de Weshden, Big Flo et Oli en live hier soir. Et un hommage à Way Renoir, l'album rap de l'année, un an après sa mort. Les flammes ont salué.
RMC, Apolline Matin, le débat.
Le débat du vendredi, la droite, la gauche, Charles Consigny, Cécile Duflot, bonjour à tous les deux. On s'intéresse ce matin au programme du Parti Socialiste. 600 propositions à gauche toutes, j'en cite quelques-unes, limiter les écarts de salaire au sein des entreprises, augmenter le SMIC, mettre en place une taxe Zucman. Charles, j'imagine que ce n'est pas franchement votre programme.
Je pense que c'est un programme d'arrière-garde des années je ne sais combien. Je le trouve débile, pour être très honnête, ce programme.
Ah, c'est franc au moins.
Ouais, je trouve qu'on atteint quand même le stade de la débilité. Et le Parti Socialiste, qui était déjà ringard, ne convaincra pas, je pense, les Français comme ça. Je pense que c'est complètement décalé et d'une autre époque.
D'une autre époque, Cécile Duflot.
Ce qui est problématique, c'est qu'on est dans un pays... La France, où les inégalités se sont
énormément accru. Et d'ailleurs, en 10 ans, ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'on était sous la moyenne européenne, que la moyenne européenne a baissé, mais qu'en revanche, les inégalités en France ont augmenté et sont passées au-dessus de la moyenne européenne. Donc, on est dans un moment où si on veut rester fidèle à ce qui fait le corps collectif de notre pays, il faut évidemment avoir un programme qui met au cœur de ces enjeux la réduction des inégalités. Et je pense qu'il y a un certain nombre de ces propositions qui vont dans ce sens-là.
Charles. Moi, je pense que... je trouve ça incroyable de dire que la France est un pays inégalitaire. On est le pays peut-être le plus égalitaire du monde. Il faut voir les choses comme elles
sont. En termes de redistribution, mais peut-être pas en termes.
Oui,
mais peut-être pas en termes quand même d'écart des salaires.
Mais une fois que la redistribution passe par là, tout le monde est payé pareil en France. Je vois dans le programme du Parti Socialiste, il y a cette vieille marotte du gauchisme qui est la limitation des écarts de salaire dans les entreprises. Donc, il propose de les limiter de 1 à 20. Alors, déjà, si vous faites ça, vous avez, dans la semaine, un départ d'entreprise. Je pense que vous avez un quart des boîtes du pays qui ont les moyens de se barrer, qui se barrent. Et puis après, la semaine suivante, c'est la moitié, et ainsi de suite, premièrement. Et deuxièmement, avec la redistribution à la française, effectivement, avec cet état vorace qui prend aux gens tout ce qu'ils gagnent, on est déjà dans cet écart de salaire. Mais moi, je pense même qu'on est dans un écart de salaire, en réalité, de 1 à 2, de 1 à 3, et non pas de 1 à 20.
Donc je pense que c'est autour de Cécile Duflot d'Henri Canet.
Le problème, Charles, c'est qu'il ne faut pas dire « je pense ». Il ne faut pas dire « je pense que la France est le pays le plus égalitaire ».
Je le vis, en fait.
Non, il y a des données statistiques, des choses qui sont produites par l'INSEE, des chiffres. Je sais que ce n'est plus à la mode, mais moi, pardon d'aimer le vieux style et d'aimer les choses qui sont factuelles. Et factuellement, les inégalités se sont énormément accru en France.
Mais est-ce qu'on est le pays le plus égalitaire du monde ?
Non, on n'est pas le pays le plus égalitaire du monde. Il y a des pays nordiques aujourd'hui qui sont, un, beaucoup plus redistributifs.
À part le Danemark.
Deux, mais pas le Danemark, la Finlande, la Suède, il y a d'autres pays. D'ailleurs, ceux qui ont rompu avec ce modèle-là se sont trouvés, pour certains d'entre eux, en difficulté. Je voudrais juste terminer sur la question des écarts de salaire. Les écarts de salaire, c'est d'ailleurs une proposition historiquement d'Oxfam, de 1 à 20 entre le salaire médian de l'entreprise, pas le plus bas, le salaire médian. C'est pas du tout vrai qu'il y a un quart d'entreprises qui vont partir parce que vous-même, vous avez dit, l'écart, c'est entre 1 à 2, 1 à 3. Pas du tout. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est que dans un certain nombre d'entreprises, l'écart s'est envolé au profit des dirigeants dans une espèce d'accord tacite avec les actionnaires, avec une redistribution massive de la richesse créée pas pour les salariés, mais pour les actionnaires. Et c'est ça qui déséquilibre notre pays, qui crée des super, super fortunes qui n'existaient pas il y a 30 ans. La réalité, c'est qu'on est, en fait, dans un moment où tout ce qui a fait le corps collectif de notre pays, et notamment l'abolition des privilèges, la base de la République, ben on est aujourd'hui en train de faire craquer ça, et ça crée une fracture dans le pays très profonde qu'il faut absolument réparer.
Charles Consigny.
Non, là, je pense qu'on est vraiment sur des vieilles lunes de gauche. Est-ce que chez Oxfam, vous respectez cet écart de salaire, par exemple,
C'est encore plus que ça. Nous, c'est 1 à 3,6 entre le plus bas et le plus haut.
Si j'étais mauvais esprit, je citerais un article que j'ai trouvé pour préparer cette émission. Le salaire du PDG d'Oxfam est 100 fois plus élevé que le salaire moyen du quart de l'humanité. Alors, vous me direz, c'est un peu spécieux, le salaire moyen du quart de l'humanité.
Le salaire moyen du quart de l'humanité,
C'est ce que je dis, c'est un peu spécieux.
C'est un peu n'importe quoi, mais...
Non, c'est pas n'importe quoi, voyez, typiquement Oxfam, par exemple, puisque vous en parlez. Moi, c'est une association dont je couperais les crédits si j'étais au pouvoir. Parce que j'estime c'est une association qui vit pour moitié de crédits publics. Non. Et ces crédits publics, les gens les payent à un moment donné.
Charles. Moi, je veux bien que vous fassiez procès d'Oxfam. Dans ces cas-là, il faudra que Cécile Duflot.
Non, c'est pas ça.
Mais on est quand même sur la question du programme.
Mais parce que Charles, apprivoiser Charles Consigny. Il est embarrassé pour répondre sur cette réalité qui est que on bat les records de pauvreté en France depuis 30 ans. Les chiffres, Charles, la réalité factuelle de notre pays.
Ça suffit, c'est pas juste un argument d'autorité, c'est faux chiffres, etc. Je suis désolé, quand on vit d'argent public, par exemple, on ne donne pas de leçons aux autres sur ce qu'ils vivent. Moi, je paye, vous voyez, je suis un contributeur de l'argent public. Je ne suis pas un bénéficiaire. Non, je pense que si on fait le ratio entre ce que vous percevez d'argent public et ce que vous donnez à l'État, je pense que vous êtes bénéficiaire.
Mais ça veut dire quoi, Charles ?
Moi, je suis un contributeur net. Et donc, je trouve ça insupportable, ces programmes stupides d'idéologues qui sont dans des postures, qui inventent des choses dans un pays où la réalité, c'est que le peuple est saigné par l'État. Le peuple est volé par l'État.
Vous considérez qu'aujourd'hui, tout le monde vit sous une sorte de perfusion, ou une partie du pays vit sous une forme de perfusion publique?
Je pense qu'on va trop loin dans la spoliation du travail au nom de belles idées telles que celles de Cécile ou telles que celles du Parti Socialiste. C'est les mêmes idées.
Cécile Duflot.
Les belles idées, c'est des idées qui datent pas du tout ni du Parti Socialiste ni Cécile Duflot. Les idées de lutte contre les privilèges, d'égalité, de fournir des services publics. Parce que la redistribution, c'est deux choses. C'est la redistribution par les prestations sociales et c'est aussi les services publics. On est dans un pays où on peut aller avec un enfant malade à l'hôpital sans qu'on vous demande votre carte bleue.
Ah, c'est tout de suite l'hôpital.
Eh ben, moi, j'aime ce pays.
Ah, c'est tout
j'aime
tout
ce pays.
La France n'est qu'un
j'aime
hôpital,
ce modèle. Non,
fait.
À l'école. On peut aussi aller au théâtre. Ben oui, ça marche bien. On n'est pas obligé de payer 1500 euros par mois
quand
on envoie des enfants à l'école.
Mais d'ailleurs, l'école publique a des résultats formidables.
Non, c'est d'ailleurs, l'école publique est en difficulté. Les enseignants sont en difficulté. Pour le coup, c'est les statistiques internationales qui le montrent. Mais je veux dire une chose qui est très importante parce que Charles dit c'est faux chiffres. En fait, un des problèmes du débat, et j'aimerais bien qu'on ne l'ait pas ici, c'est qu'il y a des choses qui sont objectives, qui peuvent d'ailleurs me faire reconnaître de temps en temps que je peux avoir tort. Si on m'oppose une réalité factuelle, je peux dire
que
ça, c'est pas erroné.
Les gens vivent les choses.
Mais les gens,
les artisans,
les gens voient la réalité.
Les entrepreneurs.
Exactement.
Des les indépendants.
De l'inégalité entre les entreprises.
Patrons, mais Charles, là, vous êtes en train de faire un débat sur la question de la contribution. La question ensuite de l'écart de salaire, c'est. Alors, vous pouvez dire, on refait toute la question de la redistribution en France, et c'est vrai, du prélèvement sur le PIB, et de sa redistribution nette ou non, et de qui est contributeur net ou pas, mais sur la question de cet écart de salaire.
Qu'un PDG gagne 500 fois ce que gagne le salaire moyen.
Mais ça ne me dérange pas du tout, moi. Ça ne me dérange pas du tout, parce que sinon vous allez briser les rêves des gens. Et il faut accepter une réalité. C'est qu'il y a des gens qui travaillent plus que d'autres. C'est factuel.
Oui. Mais là, pour le coup, on est sur le cœur du débat.
Il y a des gens qui restent vissés dans leur canapé, et il y a des gens qui se bottent le cul. Et ça, c'est factuel. Je sais que ça vous fait mal à gauche parce que votre électorat, c'est ceux qui sont enfoncés dans leur canapé.
Mais c'est ça, c'est
mais
vraiment,
je suis désolé,
ça,
c'est une
moche,
réalité.
Moche,
et les Français le vivent. Quand ils voient un écart de plus de la moitié entre le
vendredi.
Brut et le net.
Vous savez quoi, on recommence vendredi prochain parce que je sens qu'il y a quand même beaucoup de choses à se dire.
Donc ça suffit, l'INSEE, etc. Les gens vivent ces situations dans leur chair. On leur vole leur vie.
Stop.
En fait, les gens. À la chaîne, qui travaillent dans les usines, ils trouvent pas ça normal que leur patron soit payé.
Eh ben, on en reparlera. Il est 7h58. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Vous êtes bien sûr à l'AMC. On se retrouve dans un instant.